Voilà, nous allons nous confier à la Vierge Marie pour qu'elle nous accompagne tout au long de cette journée, qu'elle nous aide à méditer la parole, à accueillir la volonté de Dieu, sa présence dans notre vie, dans notre cœur. Nous nous confions à son intercession ce matin. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père Saint Joseph, priez pour nous. Voilà, alors nous entrons dans cette journée de retraite et nous le faisons eh bien aujourd'hui avec le climat d'aujourd'hui, la tempête, peut-être vous venez d'un peu loin, et je me disais que ce temps que nous prenons, qui est un temps et un espace que nous ouvrons, que nous offrons au Seigneur, un temps que nous libérons pour lui, eh bien est aussi un acte de foi en sa bonté, en sa bénédiction. Et non pas quelque chose qui, comme la répétition du même, mais comme un événement. Aujourd'hui, c'est nous croyons que Dieu se révèle à nous d'une manière nouvelle. Et c'est un événement que nous vivons ensemble avec lui, où il se révèle à nous de manière nouvelle. Il y a quelque chose d'absolument nouveau et imprévisible dans le don qu'il nous fait de sa grâce. Et il me semble que débuter cette journée en se disant, voilà, qu'est-ce qu'il va se passer, qu'est-ce qu'il va nous découvrir de lui. On n'est pas en train de répéter quelque chose du passé, on accueille un don aujourd'hui, un don nouveau. Et en ce sens, nous pourrions dire que la vie avec lui, elle est devant nous, et elle se donne au milieu parfois des décombres ou de nos occupations. Nous lui faisons de la place au milieu de nos activités, de ce que nous vivons, de nos soucis peut-être, de nos interrogations, et nous lui laissons de la place pour qu'il puisse se révéler à nous, pour qu'il puisse nous découvrir les secrets de son cœur, qu'il puisse nous insuffler son Esprit Saint, son Esprit de vie, nous apaiser peut-être, nous éclairer. Et à l'inverse du pessimisme de Coëlette, qui justement pense que ce qui a été, eh bien, c'est ce qui sera, chaque rencontre avec lui, avec le Seigneur Jésus, avec le Dieu vivant, est comme un nouveau matin, un nouvel enfantement, le surgissement dans la vieillesse du monde, de la jeunesse, de la grâce. La vie est devant nous. Comme la manne qui vient au matin dans la rosée, elle est donnée nouvelle et pour aujourd'hui. Comme le surgissement de fleuves d'eau vive dans le désert, comme nous entendions peut-être, vous vous souvenez dimanche dernier, dans la première lecture, cette idée qu'un chemin va s'ouvrir dans le désert et que des fleuves d'eau vive vont couler et donner vie dans ce désert. Alors peut-être que nous vivons nous-mêmes un désert, il me semble que se dire que cette journée de retraite, eh bien, Dieu se communique à nous, et c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Vous vous souvenez peut-être la première rencontre que nous avions vécue le premier samedi de l'Avent. Le frère Marie-Jean, je voudrais en quelques mots rappeler ce qu'il nous a dit, enseigné, pour parler de l'oraison. Pour parler de l'oraison comme Thérèse d'Avila essaie de nous parler de son expérience personnelle. Je voudrais en quelques traits rappeler ce qu'il a dit pour me situer aujourd'hui dans mon propos, où je voudrais que nous allions. Vous vous souvenez, il était parti de cette définition de Thérèse de Jésus bien connue à propos de l'oraison, rappelant qu'il s'agit de s'entretenir amicalement avec le Seigneur, souvent, seul à seul et intimement, avec ce Dieu dont on se sait aimé. C'est donc dans un climat d'amitié, un climat de solitude, d'intimité, de recueillement, que se vit cette rencontre avec le Seigneur. Et il nous avait parlé des moyens naturels qui sont à notre portée, justement, pour bien vivre cette rencontre. Il s'agissait, vous en souvenez, de recueillir notre sensibilité, réorienter vers lui notre attention, tourner notre cœur vers lui dans la foi, de vivre une solitude du cœur, se mettre à l'écart, et on pourrait dire, ben voilà, couper les téléphones, couper tout ce qui nous tient en dialogue avec le monde pour nous tourner vraiment vers lui et aller dans la voie à sa rencontre. Un peu comme disait aussi Benoît XVI dans une homélie qu'il a adressée aux chartreux italiens il y a quelques mois, dans une vulnérabilité où l'on se livre voilà, devant le Dieu vivant, dans une sorte de nudité où on va vers lui dans la foi, mais avec tout notre être. Eh bien, il s'agissait aussi donc de regarder notre vie et de voir comment Dieu agit dans notre histoire, et de regarder Jésus passer, de le regarder dans son humanité. Vous en souvenez aussi peut-être, il avait parlé comme de trois questions qui viennent comme débuter le temps d'oraison: à qui je parle, qui je suis devant le Seigneur et qu'est-ce que je lui dis. Pour vraiment prendre conscience que je m'adresse à quelqu'un de vivant, de conscient, et que je m'adresse comme une personne consciente aussi, partenaire d'une alliance. Il avait souligné aussi l'importance des vertus, du travail sur soi, avec une insistance particulière sur l'amour, le détachement et l'humilité. Il y a tout un ensemble, disons, de cohérence de vie, où nous essayons de mettre de la cohérence dans notre vie à travers l'exercice des vertus, mais Thérèse d'Avila insistait sur l'amour fraternel, l'amour d'amitié, le détachement vis-à-vis des biens de ce monde et l'humilité. Et le lieu de la vie était le lieu aussi de la vérification de notre oraison. Cette oraison, ce temps de prière dans l'amitié du Seigneur, eh bien, comment fait-il dans notre vie transforme-t-il notre vie de l'intérieur, nos relations, notre manière d'être présent au monde et aux choses? Est-ce que l'oraison transforme de l'intérieur notre capacité de relation? On y reviendra aujourd'hui, mais il me semble que là c'est quelque chose de fondamental. Alors voilà, en gros très quelques éléments qu'il avait posés, et aujourd'hui je voudrais que vous proposer en fait de nous arrêter pour essayer de faire peut-être le point pour nous et pour, comme le dit le psaume, il y a un psaume qui dit « Des chemins s'ouvrent dans le cœur, des chemins s'ouvrent dans le cœur ». Nous avons l'habitude, chacun, certains types de relations à Jésus, au Père, dans l'Esprit Saint, nous avons cette manière d'aller vers lui, de nous entretenir avec lui, de passer du temps avec lui. Et peut-être qu'il y a d'autres chemins à découvrir, d'autres manières de nous situer, d'autres manières de danser, on pourrait dire. Pour prendre une image, vous avez l'habitude, vous connaissez, je ne sais pas, le tango ou la valse, voilà, la valse à trois temps. Et puis là, on vient apprendre un nouveau pas de danse, en quelque sorte, et pour essayer de vivre cette relation au Seigneur dans une dynamique nouvelle ou avec des mots nouveaux. Des chemins s'ouvrent dans le cœur. Il y a quel chemin le Seigneur, par le don de l'Esprit Saint, vient ouvrir dans notre cœur pour être en relation avec lui de manière peut-être nouvelle, plus approfondie, plus souple, plus amoureuse. J'espère. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous allons parcourir quelques rencontres de Jésus dans l'Évangile. Il y a un certain nombre de rencontres. Les Évangiles nous décrivent, des hommes, des femmes qui viennent à la rencontre de Jésus. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se vit? Et nous le ferons aussi avec le Cantique des Cantiques. Ce texte plus ou moins connu, qui fait toujours couler beaucoup d'encre et de commentaires à travers l'histoire. Et il me semble que nous pourrions aussi visiter un petit peu ce texte du Cantique des Cantiques à travers quelques traits pour entrer eh bien, dans cette manière amoureuse de nous situer vis-à-vis du Christ, l'époux de notre âme, du Christ, l'époux de l'Église. Bien évidemment, le Cantique, nous le lisons dans le contexte chrétien. C'est le Cantique décrit des moments amoureux entre un bien-aimé et une bien-aimée, dans un contexte champêtre, bien particulier, mais la tradition chrétienne le relie aussi comme l'évocation amoureuse du Christ avec l'Église, du Christ avec chacun. Et donc, c'est dans cette perspective-là que nous le relirons, que nous entendrons pour essayer de nous dire, voilà, peut-être que dans les manières de la cas la bien-aimée de se situer vis-à-vis du Seigneur, sa recherche, la manière, les mots qu'elle utilise, les images qu'elle propose, eh bien, peut-être qu'il y a des choses qui vont nous parler, nous dire, mais tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que je peux dire cela au Seigneur? Est-ce que je peux vivre cela avec lui? Est-ce que cela m'est permis? Est-ce que cela est possible? Et voilà, après, à vous de faire le chemin, à vous de vous laisser aussi conduire dans ces nouveaux pas de danse, j'espère. Alors, voilà, donc ce temps d'oraison que nous prenons avec le Seigneur, il est important de fixer la durée et en quelque sorte de ne plus nous en occuper. Nous le vivons, ce temps de rencontre avec le Seigneur dans l'Esprit Saint, dans un acte de foi en sa présence. Et il faut bien avoir à l'idée, et je le replace simplement comme étant notre horizon, que si nous allons vers lui, eh bien, c'est parce que lui nous appelle et parce que lui d'abord cherche à venir nous rencontrer. C'est parce que lui cherche à venir se dévoiler à nous et nous dévoiler son cœur, nous dévoiler son projet que nous lui répondons. Il y a vraiment, on pourrait dire, toute une dynamique qui traverse toute l'histoire du salut de ce Dieu qui se rapproche de l'homme, de l'humanité, et qui vient lui parler au cœur. Vous vous souvenez, dans le livre de la Genèse, de cette question de Dieu à Adam qui s'est caché, où es-tu Adam ? Dieu qui part à la recherche de l'homme pour le réintroduire dans une communion qui a été brisée, qui a été blessée. On pense peut-être aussi à Moïse et le buisson ardent, où le Seigneur dit à Moïse, je suis descendu, j'ai vu la misère de mon peuple, je suis descendu, je viens maintenant le sauver. Et on pourrait suivre toute cette dynamique de descendante, on pourrait dire, qui aboutit évidemment en Jésus, où là, bien, ce Dieu invisible se rend visible, on peut dialoguer avec lui, on peut l'inviter à manger, on peut lui parler, on peut le prendre à partie, on peut le toucher, on peut le caresser, on peut se laisser saisir par lui. Et donc c'est bien un Dieu qui cherche à se rapprocher de nous, qui se rend visible et qui se livre jusqu'au bout. Et on voit bien la dynamique de l'amour qui est là et qui cherche à se rendre proche de celui, de celle qu'il aime. Vulnérablement, ce Dieu se rend, on peut l'inviter, on peut le, encore une fois, hein, il n'y a pas de garde du corps, il n'y a pas de barrière à franchir, il n'y a pas de secrétaire, voilà, il y a, non, c'est un Dieu qui se livre entre nos mains, hein, et d'ailleurs, on sait jusqu'où ça va le mener dans cette logique. Et ce propos de Dieu de venir à notre rencontre, dans la perspective de nous redire, eh bien, de nous parler au cœur, ce Dieu qui vient parler au cœur de Jérusalem, pas simplement la ville physique, mais aussi au cœur dans son âme, hein, profonde, pour lui dire, tu as du prix à mes yeux et je t'aime, et je veux conclure avec toi une alliance éternelle, je viens te donner la vie, je viens te parler au cœur. Il me semble que l'oraison, le Seigneur dans l'oraison vient nous parler au cœur, vient nous convoquer dans ce lieu du cœur, pas simplement dans les pensées ou les belles pensées, mais dans ce lieu de la conscience, dans ce lieu où nous sommes vraiment nous-mêmes et où notre cœur peut se dévoiler. Et en ce sens, et je le tiens déjà comme une perspective, vous vous souvenez dans le dialogue de Jésus avec Pierre au matin, après la Pâque, dans l'évangile de Jean, chapitre 21, dans ce dialogue que nous connaissons bien, Jésus lui demande par trois fois, « Pierre, m'aimes-tu ? » Vous connaissez. Et puis la réponse de Pierre à la fin, « Tu sais tout, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Et dans ce « Tu sais tout », il y a tellement de choses. Et je trouve qu'il y a là comme un aboutissement, ou en tout cas un point, une étape, ce « tu sais tout », on a l'impression que Pierre a ouvert a pris conscience de ce qui est en lui, de tout ce qui est en lui, et il a accueilli Jésus dans tout cela. Tu sais tout. Il a accueilli son Seigneur, il a accueilli l'amour du Seigneur dans tout son histoire, tout ce qui est en lui, et même son péché, sa lâcheté, ses jalousies, enfin, toute l'épaisseur aussi de ses ténèbres. Et dans ce dialogue qui est, on sent Pierre vulnérable et tout ouvert finalement à cette présence, il a accueilli son Seigneur dans tout ce qu'il est. Hein, et je me dis, il y a là pour nous un horizon vers lequel nous allons, ce Dieu que nous allons rencontrer, qui vient à notre rencontre, eh bien, nous l'accueillons dans tout ce que nous sommes, dans tout ce qui nous constitue, dans tous les instants de ce que nous vivons. Et cet accueil, eh bien, se fait dans un climat d'amour et pas juste comme un spéléologue qui va visiter les grottes et qui va faire le tour de toute la maison. Non, il y va comme un amoureux, comme un spéléologue peut être amoureux de ce qu'il voit de la grotte, évidemment. Un des éléments fondamentaux pour nous, dans notre temps d'oraison, évidemment, en accueillant ce Seigneur Jésus, eh bien, c'est de recueillir tout ce qu'il dévoile de lui. Et c'est pour cela que les évangiles, évidemment, sont pour nous la parole de Dieu, de suivre Jésus à la trace, d'écouter sa parole, de le voir au jour le jour, dans les rencontres qu'il pose, comment il se situe avec les hommes, les femmes, comment ils se situent avec chacun, et de voir que dans tous ces faits et gestes, il y a un cœur qui cherche à se dévoiler et à venir nous parler au cœur. Il y a ce Dieu qui cherche à se faire connaître, accepter. On sait que ce n'est pas facile. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Et donc, quand nous ouvrons l'évangile, hein, c'est un « allons jusqu'au cœur ». De Jésus qui cherche. Il y avait dans un couvent de France où j'ai vécu quelques années, il y avait une statue d'un Sacré-Cœur, voilà, en fronte, qui était un peu très, très massive. Et Jésus, en fait, était dans un jardin et il avait la main droite tendue et il montrait son cœur qui était ouvert. Et je me suis dit, finalement, c'est une image de notre vie spirituelle. Il y a qu'on peut passer à côté de ce jardin sans se rendre compte qu'il y a cette statue, sans en avoir entendu parler. Et puis, quelqu'un peut nous y amener, viens voir, oh, tu sais, il y a quelqu'un là, il y a quelque chose de très beau à voir. Donc on peut s'approcher, écouter, et puis écouter, bon, à travers cette statue, là, c'est la figure de Jésus, écouter ses paroles, ses gestes, voir comment il agit, tout ça, dialoguer avec lui, bon, très bien, voir ce qu'il propose. Et puis, on peut se rendre compte que tout prend son origine dans ce cœur ouvert. Et les mystiques vont dire, mais ce cœur, donc, vous voyez, à travers les paroles, je vais rejoindre le cœur, l'amour qui cherche à se dire. Et puis, en même temps, Jésus nous propose de le suivre. Et une chose, c'est de voir le chemin à prendre, et une chose, c'est de prendre ce chemin, de le suivre. En quelque sorte, et c'est bien ce à quoi Jésus nous invite, si nous voulons, une chose c'est de dire, ben voilà, c'est très beau ce chemin d'amour, c'est très beau, c'est magnifique, on a la carte, tout ça, la porte d'entrée, c'est très beau, la porte est un peu étroite, mais bon, on arrive à passer avec l'Esprit Saint, mais voilà, mais encore une faut-il prendre ce chemin de l'amour. Et les mystiques vont dire, voilà, ce cœur est ouvert, et il va s'agir pour... Ce cœur est ouvert comme une invitation à entrer dans ce cœur et à cheminer dans ce cœur. Et c'est ce chemin de l'amour que Jésus nous invite à prendre, eh bien, voilà, encore faut-il le prendre. Et nous comprendrons de l'intérieur le mystère de Dieu dans la mesure où nous vivrons nous-mêmes la charité. C'est dans le... Pour prendre une image, dans le Cantique des Cantiques, si on ouvre ce livre, c'est comme ouvrir les portes d'un jardin ou les grilles d'un jardin. Vous pouvez avoir, comme dans un jardin, vous pouvez regarder de loin, voir les jolies fleurs, les arbres fruitiers qui se, qui sont à l'intérieur. Vous pouvez respirer peut-être le parfum, entendre les voix, mais encore faut-il entrer dans ce jardin. Et c'est Origène hein, qui est un des premiers commentateurs chrétiens du texte, qui dit à propos de hâte-toi d'écouter ce que l'épouse a entendu pour en vivre et pour que toi-même tu puisses entendre ce que l'époux a à te dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être simplement des spectateurs du spectacle, mais devenir acteur de ce qui se vit. Et il y a là toute la, disons, la participation à la vie concrète à laquelle Jésus, sur ce chemin à laquelle Jésus nous invite. Je voudrais prendre une autre image, bon, qui est un petit peu, que je trouve mignonne, bon, si l'adjectif est pertinent. C'est tiré d'un roman, un roman écrit par un auteur franco-chinois qui s'appelle François Cheng, qui s'appelle « L'éternité n'est pas de trop ». C'est un très joli roman qui raconte au XVIIe siècle en Chine un amour impossible qui a été rendu impossible entre un homme qui est devenu médecin et puis une femme qui a été mariée de force à un seigneur. Et cette femme qui arrive à la quarantaine, cinquantaine est très malade des mauvais traitements qu'elle a vécu tout au long de sa vie. Et lui, ils s'étaient tombés amoureux l'un de l'autre au cours de leur jeunesse et puis l'histoire les avait séparés. Lui se rapproche, espérant peut-être un jour la revoir, la redécouvrir, et c'est un médecin réputé. C'est une histoire vraie, hein. C'était tiré d'une histoire vraie. Bon. Et donc il arrive, on fait appel à lui, mais à ce temps-là, les médecins n'avaient le droit d'ausculter leur patiente qu'en touchant leur poignet et en écoutant le pouls. Donc il faut bien écouter. Donc l'image est jolie parce que donc elle est derrière un voile et donc elle lui tend le poignet et il écoute son pouls. Et le romancier, enfin celui qui écrit l'histoire, dit ben voilà, il est allé à l'écoute de ce cœur qui battait et il a comme retracé toute l'histoire, écoutant à travers les difficultés de sa vie, et bien reconnaissant quels étaient les organes touchés, tout ça. Et elle ne le reconnaît pas encore. Mais elle va peu à peu, bon, l'amour va renaître, on pourrait dire, entre eux, et elle va retrouver la santé. Mais ce qui est très beau, c'est le geste, si vous voulez, qui moi m'intéresse dans l'oraison, c'est-à-dire qu'il va rejoindre concrètement son poignet, il écoute son pouls et il rejoint le cœur qui bat. Il me semble que l'oraison, c'est cela, d'une certaine manière. On ouvre l'évangile, on va à la rencontre de l'humanité de Jésus, telle qu'elle nous est décrite dans les évangiles, et dans la foi, on écoute ce cœur, cet amour qui cherche à se dire à nous et à nous entraîner à sa suite. Alors, dans ces rencontres que Jésus vit, qui nous sont décrites, il y a, je vais en citer quelques-unes, des attitudes qui nous sont proposées. Il y a par exemple l'aveugle Bartimée, au chapitre 10, verset 46 de l'évangile de Marc. Avant de plonger dans ce texte, il est important de se dire, voilà, en même temps, on va vers Jésus dans la foi et demeure une distance avec lui, un entre. Entre lui et nous, il y a une distance qui reste le lieu de notre liberté. Et ces rencontres de Jésus dans l'Évangile vont nous décrire des personnes qui vont franchir cette distance physiquement, qui vont la franchir à travers des actes de foi, des actes d'espérance, des actes d'amour. Et ces franchissements de la distance peuvent nous aider, nous-mêmes, à poser des actes qui nous font aller vers lui. Donc c'est tout à la fois comment nous allons habiter cette distance. Je viens de dire que lui, il l'investit par ce désir de se dévoiler à nous. Et nous, comment investissons-nous cette distance? On peut rester là et finalement, on reste comme deux vis-à-vis, comme nous on appelait ça se regarder un chien de faïence. Vous savez, c'est comme chien de faïence, c'était des petits objets que l'on plaçait dans les bibliothèques pour tenir des livres. Vous savez, vous en avez un à gauche, un à droite, et puis ils se regardent comme des chiens de faïence. Ils sont là, ils se regardent, bon, ils tiennent les livres. Bon, mais rien ne bouge. Voilà, ils se regardent, là, bon. Mais c'est pas ça. Donc, comment nous, chrétiens, chrétiennes, nous investissons cette distance? Comment nous allons vers lui dans la foi? Le fait que vous, aujourd'hui, vous êtes venus ici, et que vous venez régulièrement, vous, de cette manière, physiquement, et avec votre cœur, vous allez vers lui. Vous allez le rencontrer. Et peut-être, celles et ceux qui étaient là, Il y a une fois, là, il me semble qu'à l'homélie, nous en avions parlé un peu, la communauté qui nous accueille ici nous aide à habiter cette distance. Qu'est-ce que nous faisons avec lui, auprès de lui? Eh bien, nous le chantons, nous le louons, nous le prions, nous l'écoutons, nous passons du temps avec lui, nous sommes ensemble avec lui, nous le célébrons, nous faisons mémoire, bref, toutes ces attitudes de l'âme qui sont autant d'aide pour nous faire entrer dans une relation qui a été blessée, qui a été rompue, qui n'est plus naturelle ou surnaturelle pour nous. Et donc comment nous habitons cette distance? Et nous verrons comment, à travers des exemples, des images, nous pouvons nous impliquer. Donc il y a Bartimée, l'aveugle Bartimée, au chapitre 10, verset 46 de l'évangile de Marc, par exemple. Je voudrais citer ce passage. Ils arrivent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples, une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus le Nazaréen, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» On appelle l'aveugle en lui disant, « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle !» Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Rabboni, que je recouvre la vue !» Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé !» Et aussitôt, il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. Donc, la scène est très parlante d'elle-même. Hein. Cette foule qui accompagne Jésus, qui devient presque un obstacle même. Et cet élan, cet homme qui, porté par sa foi, par sa confiance, eh bien, ne se laisse pas... ne se laisse sa chance, il veut la saisir. Hein. Et donc, dans la nuit, puisqu'il est dans la nuit, il traverse cette foule, sa voix traverse cette foule et va rejoindre Jésus. Alors on peut se dire, nous-mêmes, qu'est-ce qui habite notre cœur? Est-ce qu'il n'y a pas une... Quelle est la foule de bruit qu'il peut y avoir en nous? C'est des mauvais souvenirs, des questions, des doutes, des questions qui nous laissent vraiment, c'est pas sérieux, enfin, on est devant Dieu avec des questions sur notre propre histoire, sur la situation du monde, sur ce qu'on dit de l'Église, je sais pas, toutes sortes de questionnements, de choses qui peuvent nous... ou de demi-vérités, ou de choses qu'on a apprises, puis finalement qui ne sont pas tout à fait justes. Mais une foule de choses qui nous tient comme à distance de lui, et qui nous empêche de nous élancer vers lui avec la confiance des enfants, ou la confiance amoureuse de celui qui sait que l'autre, cet autre, il est bon, fondamentalement. Est-ce que j'ai peur de lui? Est-ce que j'ai honte de ce que j'ai fait? Est-ce que... Quelle est la foule? Quelles sont les foules qui nous habitent? Des fois, c'est simplement les distractions, des choses qui nous assaillent, qui nous prennent la tête. Et donc cet homme, ce Bartimée, on le voit, et je trouve qu'elle est sympathique, il sort de lui dans un acte de foi et de confiance, il va vers lui. Et vous l'avez entendu? Je suis toujours frappé de voir Jésus qui renvoie une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Parle. Il renvoie, formule ta prière. Exprime, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Donc quand vous venez ici, devant le sacrement, ou quand vous êtes dans un acte de foi chez vous, ben voilà, ce Dieu présent-là, que veux-tu que je fasse pour toi? Que cherches-tu? Il dira, ou alors aux apôtres, de quoi discutiez-vous en chemin? Formule, parle. Et là, on peut se dire que c'est toutes les... Alors il y a nos mots à nous, mais il y a aussi les psaumes, hein, qui sont des formulations. Les psaumes nous aident aussi à mettre des mots sur des émotions, et nous aident finalement à habiter ce entre, hein, pour qu'on ne soit pas là, encore une fois, dans un silence. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors des fois, il me semble qu'il y a des prières. Des fois, dans les églises, on met « Seigneur, je ne sais pas prier, alors je vais mettre un lampion ». Vous savez, on dit « je ne sais pas prier bon, ». C'est un geste qui veut dire une parole, mais on peut aller plus loin, hein, que ce simple geste. Il y a aussi un autre geste dans l'évangile de Marc. Nous connaissons bien ce texte. Nous sommes au chapitre 5, verset 28. Je lis le passage. Donc cette femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 ans et qui avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, mais elle est plutôt de mal en pis. Elle avait entendu parler de Jésus. Venant par derrière à la foule, elle toucha son manteau, car elle se disait « Si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée ». Et aussitôt, la source d'où elle perdait le sang fut tarie, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son infirmité. Et aussitôt Jésus eut conscience de la force qui était sortie de lui, et s'étant retourné dans la foule, il disait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disent « Tu vois la foule qui te presse, et de tout côté tu dis « Qui m'a touché ?» Donc il y a un toucher de Jésus qui n'est pas le même que... Enfin, il y a des degrés, finalement. L'acte de foi, d'espérance de cette femme qui finalement est épuisée de lui-même, qui la déçoit, qui ne la sauve pas. Finalement, elle a essayé tout ce qui était à sa portée autour d'elle, toutes les thérapies possibles et imaginables. Eh bien, elle est encore avec son fardeau, avec encore cet impossible qui la mine de l'intérieur. Et elle a tout essayé au plan humain, le texte nous le dit, et on peut se dire, voilà, des fois, il y a des personnes qui ont essayé tout un tas de choses pour... Mais là, elle va le toucher dans une foi, et bien voilà. Et Jésus entre, voilà, et il regarde autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme craintive et tremblante, sachant bien ce qui lui était arrivé, ben, se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et voilà, la parole de nouveau. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton infirmité. La rencontre a eu lieu, la vie du Christ a pu se communiquer. Cette femme, elle est tout à la fois sauvée dans son corps, mais son âme a été fortifiée, elle repart en paix. La rencontre a été célébrée, en quelque sorte. La vie a été communiquée. D'autres gestes. Un que j'aime beaucoup aussi, dans Luc, chapitre 13, verset 36 et suivant. Il y a, donc le passage est un peu long, je vais juste l'abréger. Vous vous souvenez, là encore, Jésus est invité par un pharisien à manger et il entre dans cette maison et il dîne. Et voici une femme qui, dans la ville, était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. Et se plaçant par-dessus, derrière à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes. Et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfums. Cette vue, le pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. Et puis après, donc il y a la parabole de Jésus, et Jésus poursuit par rapport à son enseignement, et se tournant vers la femme, « Tu vois cette femme, dit-il à Simon, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Elle, au contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds de baiser. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. À cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. » Mais celui à qui on remet peu montre peu d'amour. Donc ce qui est très touchant, c'est de voir comment Jésus recueille les gestes qu'elle pose dans le silence. Ce sont ces gestes qui parlent, qui disent son cœur, et tous ces gestes de tendresse qui vont rejoindre l'humanité concrète, le corps de Jésus. Jésus les recueille, et lui, eh bien, il entend le cœur qui se dit là. Et il en recueille, et devant tous ces hommes, enfin, ce pharisien qui devait être un peu cynique et un peu, voilà, enfin, le regarder un petit peu de haut, qui se croyait proche de Dieu, eh bien, il lui révèle que ce geste révèle en fait une proximité bien plus grande, parce que c'est l'amour qui porte son geste, qui porte tous ses gestes. Et je trouve que là, il y a quelque chose pour nous de qui peut peut-être nous inspirer. Parfois, nous allons à l'horizon avec plein d'idées, mais des fois, c'est simplement le fait d'y aller, d'être là, et de le vivre avec tendresse, de le vivre ce temps comme une offrande de nous, on y reviendra, mais de se dire que Jésus recueille comme quelque chose qu'il va savourer, et on va y venir maintenant, quelque chose qu'il va savourer, qu'il va goûter, de sorte parce qu'il entendra le cœur battre de cette femme. Il va entendre son désarroi, mais aussi son espoir qu'elle a placé en lui. Et c'est là que Jésus vient nous chercher. Il vient nous appeler, pour ce temps de raison en particulier, mais pour tous, c'est bien aller frapper à la porte du cœur et dire, voilà, elle est où? Il est où l'amour dans ta vie? Je voudrais m'arrêter juste un instant sur le terme sur la caresse. C'est un terme utilisé, me semble-t-il, par un philosophe qui s'appelle Lévinas, où, à travers ce mot de caresse, en fait, il veut décrire pas simplement le geste sensible, mais toute une attitude d'âme, toute une attitude spirituelle qui est une manière d'être en relation avec l'autre, d'être en dialogue avec lui et avec l'autre, mais aussi avec la nature, avec la vie, d'une certaine manière. Ce geste...
Je vais lire de mémoire.
Il ne s'agit pas de, à travers ce mot-là, il ne s'agit pas d'avoir une expérience, de saisir, comme on va attraper et on se souvient de Jésus en dialogue avec Marie-Madeleine, vous vous souvenez, au matin de Pâques, qui veut le saisir, ne me retiens pas, je monte vers mon Père. La saisie empêche l'autre de vivre, en quelque sorte. L'empêche de nous amener plus loin. La caresse vient comme solliciter l'autre, et en même temps laisse à l'autre le soin de nous amener plus loin. Cette femme de Luc, elle vient, elle pose des gestes de tendresse auprès de Jésus. J'ai fini par trouver mon texte, excusez-moi. Et Jésus va l'amener plus loin. Alors ce qui est dit de la personne de Jésus peut être dit aussi du texte. Voilà ce que nous dit l'auteur qui commente, donc c'est un rabbin, Marc-Alain Wachmin, qui parle donc de cet autre philosophe Lévinas autour de ce thème de caresse. Voilà ce qu'il nous dit. Le texte n'est jamais atteint. On peut dire qu'il est caressé. Ainsi, malgré le travail d'analyse, de recherche, d'éclatement, de mise à nu, le texte se dérobe, reste inaccessible toujours à venir. Il se présente à nous pour se retirer aussitôt. Il sera visible et invisible, mais il ne se dérobe que si on le laisse se dérober. Le mouvement de retrait nécessaire dépend avant tout essentiellement de l'interprète, de sa manière d'être en face du texte, de sa manière de s'approcher. Ce mode d'être s'appelle caresse. C'est un mode d'être du sujet. Elle consiste à ne se saisir de rien, à solliciter ce qui s'échappe sans cesse de sa forme à venir, jamais assez à venir, à solliciter ce qui se dérobe comme s'il n'était pas encore. Caresse est recherche. Dans cette recherche, la caresse ne sait pas ce qu'elle recherche. Cette étude permet de faire une expérience. Avoir une expérience renvoie à la possession, au connaître, à l'installation dans la satisfaction, à la confiance que procure l'acquis, mais elle ne fait rien de nouveau. Faire une expérience, c'est s'inscrire dans l'ouverture, dans l'ouvrir. Je trouve que c'est très beau de cette attitude de l'âme qui sollicite, qui part à la recherche de l'autre, et en même temps qui ou du texte, ou dans la foi de Jésus, ou de l'autre, du conjoint, ou de l'ami, et qui en même temps lui laisse la liberté de nous amener plus loin. Et aujourd'hui, on voit qu'on est quand même pris dans notre culture, on veut saisir les choses, on veut les... Voilà, là il y a une sorte d'invitation au voyage. Aller à la rencontre de Jésus à l'oraison, c'est une invitation au voyage. Il ne faut pas avoir peur de se dire, on va du connu vers l'inconnu. Et encore faut-il se laisser conduire aussi. On cherche, hein, on n'est pas passif, on cherche, on scrute, on lit les Écritures, mais en même temps, on se laisse porter, on se laisse amener plus loin. Et c'est ça que je trouve dans ce passage de l'Évangile de Luc, la femme elle arrive avec son désir, elle pose tous ses gestes, elle s'abandonne dans ses gestes. Et Jésus l'amène plus loin. Il lui parle et il lui révèle son geste et il nous amène plus loin aussi. Alors, voilà, je ne fais que le souligner comme quelque chose, ça peut être une attitude de l'âme vis-à-vis du texte, comme vis-à-vis de Jésus dans l'Évangile, comme vis-à-vis de nos proches. Alors donc, nous allons à la rencontre du Seigneur. Nous avons dit que aller à sa rencontre, la parole jaillit, et nous pouvons repartir comme ces personnages que nous venons de... ou rester assis à ses côtés. Et dans l'évangile de Marc, on voit plusieurs fois Jésus, ils sont en chemin, ça bouge beaucoup dans l'évangile de Marc, et à un moment donné, il s'assoit et il prend le temps d'enseigner. Et donc, eh bien voilà, nous allons l'écouter. Nous allons écouter sa parole. Après une recherche, nous prenons le temps de l'écouter. Alors, si on se promène dans le Cantique des Cantiques, si on ouvre ce livre, il y a aussi une attitude qui est proposée. Nous sommes au chapitre 2, versets 3, 4. Voici ce que dit la bien-aimée. Comme le pommier parmi les arbres d'un verger, ainsi mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. À son ombre désirée, je me suis assise, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a mené au cellier, et la bannière qu'il dresse sur moi, c'est l'amour. Voilà. La bien-aimée est partie à la recherche. Elle l'a trouvé, et là, elle savoure sa présence. Son fruit est doux à mon palais. Il m'a mené au cellier. Alors le cellier, il faut qu'on parle un petit peu du vin. Pardonnez-moi, il faut parler un peu du vin, parce que dans le Cantique, on en parle beaucoup. Et on parle... Voilà, ça nous mettra peut-être en appétit. Mais c'est que dans le Cantique, on parle beaucoup du vin. Les sens sont très sollicités. Au chapitre 1, verset 4, à la fin du verset, au verset 2 et au verset 4, il y a une question du vin. On nous dit ceci, la bien-aimée dit ceci, « Tes amours sont plus délicieuses que le vin. » Et un peu plus bas, « Nous célébrerons tes amours plus que le vin, comme on a raison de t'aimer. » Donc elle nous dit, pour parler de l'amour, eh bien, il nous faut parler du vin, parce qu'elle les met ensemble, elle les fait dialoguer. Parce que bon, le vin, voit ce que c'est. L'amour, voilà. En même temps, elle nous dit bien, tes amours sont plus délicieux que le vin. Donc, on sent bien que le registre, quand même, est dépassé. Alors, juste un petit arrêt sur ce terme de vin, c'est qu'en hébreu, les hébreux s'amusent, associent un chiffre à chaque lettre, chaque consonne, on associe un chiffre. Et donc chaque mot a une valeur numérique. Bon, jusque là, pas de problème. Alors ce qu'ils vont faire, comme manière d'aller caresser le texte, ils vont mettre en relation des mots qui ont la même valeur numérique et voir si ça fait quelque chose. Et alors, pour le vin, la valeur du vin, c'est 70. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi la valeur du sod, c'est-à-dire le secret. Ara. C'est-à-dire que le vin, quand on parle du vin, on parle du secret. Et du secret au sens du secret qui nous parle du mystère de la vie, qui nous parle du mystère de Dieu. Bon. Alors, arrêtons-nous un peu sur le vin. Le vin, on peut dire, il y a trois aspects. D'abord, c'est l'aspect produit fini. Vous allez goûter une bonne bouteille de vin. Vous allez vous dire, ah ben voilà, je peux décrire dans cette bouteille, dans ce vin, je trouve telle saveur, il a telle qualité, tel aspect. Voilà. Et puis, on peut faire comme une carte des vins et voir toute la... Et puis suivant le millésime, suivant l'année, suivant le terroir, on peut la diversité, il y a une diversité énorme, et c'est savoureux. Ouais, donc on faut que ce soit du bon vin, hein, que ce soit savoureux. Et donc, on se dit, voilà, la bien-aimée, elle dit, l'amour du Seigneur, il est plus délicieux que le vin. Mais ce vin, il est riche, il enivre aussi, il est savoureux, alors, ce qui veut dire que ce qu'elle goûte de l'amour du Seigneur, c'est savoureux. C'est infiniment riche. C'est plein d'aspects toujours à découvrir. Alors, voilà pourquoi elle nous dit, la folle, elle nous dit, il m'a mené au cellier. Parce qu'au cellier, c'est là que tous les vins sont gardés. Et oui, elle est contente, parce que là, elle va pouvoir goûter à tout. C'est-à-dire tous les aspects de son amour. Alors vous dites, bon, c'est sympathique. Alors je vous pose une question. Chez Saint Paul, par exemple, est-ce qu'on peut dire que Paul, d'une certaine manière, est entré dans le cellier? Et puis, est-ce qu'il y a un texte de Paul qui nous parle, qui fait écho à cela? Je ne sais pas trop comment dire la question. Mais quand je veux bien répondre, vous allez comprendre. Cette sorte de carte des vins. Il y a l'inacharité de l'un épître, la première épître aux Corinthiens, chapitre 13. L'amour prend patience, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour fait confiance. Il a goûté l'amour de son Seigneur, et ce que l'amour l'a poussé à faire, parce qu'il a supporté ses frères de race qui lui en voulaient, il a pardonné, il a été plein de sollicitude. Cet homme, Paul, il a été touché par l'amour du Christ, et tout ce qu'il considérait, tout ce qu'il croyait comme être des avantages autrefois, il les considère comme des balayures. Et donc il nous décrit, si vous voulez, la carte des vins, en quelque sorte. Il nous décrit ce qu'il a découvert de l'amour. Et vous-même, vous pourriez, et nous pourrions, et ça serait, peut-être cet après-midi on peut le faire, mais ça serait, vous pourriez décrire, voilà, tout ce que l'amour vous a poussé à faire, tout ce que vous avez... Voilà, l'amour c'est ceci, l'amour c'est cela. D'ailleurs, il y a quelques jours, avant la Saint-Valentin, il y avait une émission à la radio, c'était des personnes qui étaient interrogées sur la question, voilà, est-ce que vous dites « je t'aime » à quelqu'un? Et quand vous dites « je t'aime », qu'est-ce que se passe? Il y avait des choses magnifiques qui étaient vraiment dites. C'est la revient, c'est des choses universelles. Et puis les choses, voilà, où on se dit, ben, comme chrétien, voilà, il y a quelque chose de spécifique qu'on peut apporter. Donc cette bien-aimée, donc là, vous voyez, c'est l'aspect produit fini. Voilà, vous savourez, voilà, quelque chose du Seigneur qui vous fait merveille. Vous êtes impressionné. Bon. Mais après, il y a tout l'aspect produit fini, on pourrait dire. Tout ce qui, enfin, l'aspect élaboration, plutôt. Parce que là, c'est un travail de tous les instants, on pourrait dire de toute une vie, parce que quand on est viticulteur, on sait qu'une vigne, ils passent des jours et des jours à travailler leur vigne. Il faut là, enfin, plusieurs années dans un contexte où il y avait beaucoup de vignes, et ils sont toujours fourrés dans la vigne en train de tailler, de traiter, il faut des soins de tous les instants, quoi, pour arriver à sortir. Et puis une fois que le grain a été ramassé, il faut encore... Il y a tout le travail au cocher, tout ça. Bon. Et donc c'est à la fois une attention, un travail, un soin de tous les instants. Ce qui fait que quand la bouteille arrive au bout de toute cette élaboration, je veux dire que le viticulteur, il voit tout le poids de travail qu'il y a derrière. Et on peut dire que quand il le savoure, son vin, Ça a du poids. Il goûte tout ça. Alors, si on revient à notre texte du cantique, toujours, nous célébrons tes amours plus que le vin, comme on a raison de t'aimer. En hébreu, ce mot de nous célébrerons, c'est aussi nous ferons mémoire de tes amours plus que le vin. C'est-à-dire que faire mémoire, ça vous fait écho à quelque chose dans l'Eucharistie. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus prend le pain, il prend le vin. Que fait-il hein, en consacrant, eh bien, c'est par le don de l'Esprit Saint que ce vin devient son sang. C'est-à-dire que c'est tout l'amour qu'il porte sur nous, qui investit ce vin et qui le transforme en lui-même. Et vous voyez que là, on commence à entrer dans le mystère eucharistique. C'est-à-dire que tout à l'heure, voilà, on joue sur ces réalités qui est la vie même du Christ et son amour qui va jusqu'au bout et qui se donne en nourriture pour notre salut, pour que nous puissions savourer cela, pour que nous puissions le goûter et prendre conscience de tout l'amour qui est contenu dans cela. Vous voyez comment ces images peuvent, c'est de manière symbolique, mais nous faire entrer dans le mystère. Donc c'est à la fois le vin produit fini, le vin élaboration, et puis tout ça est récapitulé dans l'Eucharistie, où effectivement on peut dire, assis à son ombre désirée je me suis assise, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a mené au cellier, la bannière qu'il dresse sur moi, c'est l'amour. Alors, petite anecdote, quand j'étais toujours dans cette région viticole du sud-ouest de la France, il y avait des grandes des maisons où il y avait marqué « maison du vin », donc cellier. Je me suis dit, mais finalement l'église, nos églises, ces lieux où nous vivons, où nous célébrons l'Eucharistie, où nous prions, eh bien ce sont des maisons du vin, mais sur laquelle, évidemment, nous venons savourer l'amour du Seigneur. Nous venons nous en nourrir, nous venons nous en faire mémoire. Ce nouveau Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour, comme dit saint Augustin. Et c'est ce lieu où nous faisons mémoire de ce geste unique qui embrasse tous les temps, de cette offrande de Jésus qui se donne à nous, qui se livre à nous, par amour, et qui se livre. Alors voilà, quand nous allons à l'oraison, eh bien nous allons écouter ce cœur, savourer, faire mémoire, comme Marie qui méditait tous ces événements et les méditait dans son cœur, pour en recueillir toute la saveur, la texture. Et ça c'est savoureux. Ça c'est savoureux. De nous dire, voilà, comment l'amour de Jésus est entré dans ma vie, combien il peut entrer. Et voilà ce que nous dit la bien-aimée du cantique. Elle, voilà, elle est contente. Elle est entrée dans ce ciel. Et c'est ça aussi qu'il nous faut désirer. Aller nous enivrer. Nombreuses sont les images où justement, et ça je pense que c'est un élément fondamental, surtout dans notre contexte aujourd'hui, me semble-t-il. Ce temps de l'oraison, nous prenons de la place, nous laissons de la place au Seigneur gratuitement, nous lui laissons de la place. Il est venu chez les siens, il y a tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes comme Marie, Marthe et Marie, Marie qui accueille, qui écoute la parole, qui rumine tout cela, qui essaie d'en extraire le suc et qui, voilà, est nourri. Et c'est encore, parce qu'il nous faut le dire, c'est encore au moment du baptême ou de la transfiguration, cette parole du Père, celui-ci mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Écoutez-le. Et dans ce écoutez-le, c'est à la fois la parole, mais c'est tout ce qui vient de lui, tout ce qui se dégage de lui, sa manière d'être présent aux autres, de se situer, de toucher, toute sa manière d'être qui dit l'amour dont il est pétri, ouais. Et qui cherche à nous rejoindre, à frapper à la porte délicatement. Je crois que là, c'est une source intarissable pour nous. d'aller écouter ce cœur qui bat, hein, ou encore l'image de Jean qui pose la tête sur la poitrine de Jésus, de se dire que quand nous allons à l'oraison, nous allons écouter ce cœur qui bat, ce cœur qui cherche à se dire, ce cœur qui cherche à se dévoiler, et qui, il n'y a que ça qui peut nous nourrir en profondeur, et nous libérer, et apaiser notre angoisse. Donc, je ne parlerai au cœur. On se souvient du prophète Osée. Hein. Mon épouse infidèle, je la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur. Et c'est vraiment une source pour nous. Peut-être, vous me permettrez encore, je ne connais pas grand-chose en hébreu, mais le peu que j'en sais, je vous le livre. Moi, ça me nourrit, enfin, je ne sais pas si. Mais donc, il y a aussi dans ce mot écouter, j'espère que je ne dis pas de bêtises, hein, vous me reprendrez ceux qui sont d'autres personnes parmi vous, là. Dans le mot écouter, vous savez qu'en hébreu, c'est schéma, il me semble, hein, c'est le mot schéma. Donc, écouter. Et alors, c'est formé de trois consonnes, le shin, le mem et le ein. Et alors, bon, les voyelles comptent peu, mais alors si on garde les deux premières consonnes, le shem, c'est à la fois, ça dit aussi le nom de la personne. Ça désigne aussi l'être de la personne. Mais c'est aussi l'adverbe de lieu, l'adverbe là, on dit sham. C'est sur les mêmes consonnes. Et puis le ein, donc la troisième lettre, c'est la source. Alors ça, c'est intéressant, parce que si vous mettez écouter, c'est presque c'est la même chose que de dire. Là, la source est là. Et donc, écouter Jésus, enfin, au sanctuaire, parce qu'on habite à côté du sanctuaire à Notre-Dame, à Trois-Rivières, là, il y a le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, vous savez qu'il y a une source qui coule, et puis les gens vont chercher de l'eau, pour puis après qu'on bénit, voilà. Et donc, souvent, les gens posent la question, elle est où la source? Alors nous, on dit, elle est là, la source. Et quand on dit, elle est là, la source, on dit, écoutez. Et ce qui est très beau, c'est qu'on entre dans le sanctuaire où il y a des statues et on dit écoutez, ok, il y a l'eau, mais écoutez lui qui est la source, écoutez Jésus qui est la source. Parce que c'est en lui que le Père qui m'a vu a vu le Père. Jésus, il porte tout le Père, il nous révèle le Père et tout l'amour. Et donc, écouter Jésus, c'est aller boire à la source. C'est recevoir tout ce que... Il n'y a pas d'autre source, si vous voulez. Enfin, je trouve ça joli, si vous voulez. Moi, ça me... Je dis, voilà, les gens qui arrivent avec leur jerrican, talent, qui arrivent au sanctuaire, ils disent, elle est où la source, vous dites, elle est là, et vous leur dites, écoutez. Et là, on change de registre. Parce qu'effectivement, on ne va pas simplement dans ce lieu pour aller remplir des bidons, on va remplir ses bidons intérieurs. Enfin, on a besoin de remplir aussi son cœur, et de se laisser remplir. Nourrir, émerveiller, de savourer cette présence de Jésus qui est là, qui cherche à nous à se reposer. Alors, le temps passe, il nous faut conclure ce matin. Nous allons cet après-midi évoquer d'autres aspects. Mais là, ce sera plutôt la manière dont la bien-aimée, dont l'âme, dont chacun de nous, nous allons répondre à ce don de l'amour. Donc comment nous allons essayer de vivre parce que ce bien-aimé, et le cantique des cantiques nous le décrit aussi, parfois on perçoit qu'il est absent et qu'il y a une distance et qu'il s'éloigne et qu'il c'est moins évident et que c'est plus aride. Alors comment justement transformer, enfin, ou vivre ce moment-là, non pas comme simplement, si j'aurais su, j'aurais pas venu, hein, comme disait Regard des boutons le film, hein, si j'aurais su, j'aurais pas venu, non, de transformer ce moment-là comme un acte d'amour, comme une réponse amoureuse. Et on ira se promener encore une fois dans le cantique pour voir, eh bien, quelles sont les attitudes d'âme que l'Écriture nous propose pour vivre ce moment-là, cette distance-là, de manière féconde, et qui nous rend semblables à lui. Voilà. Parce que lui, le lieu où il demeure, le lieu où il nous entraîne, eh bien ce sont ces monts parfumés, c'est-à-dire lui, il nous entraîne dans l'amour. Et on verra, je ne fais que l'évoquer là, mais si nous le cherchons, eh bien c'est dans l'amour que nous le trouverons. Et c'est là qu'il nous attire, il veut que, si vous voulez, nos pas qui sont parfois lourds, avec des chaînes, tout ça, eh bien, on retrouve un pas léger pour le suivre lui, parce que lui, il est dans l'amour, et c'est là qu'il nous entraîne. Il nous attire à sa suite. Venez, vous verrez. On voit bien que dans l'évangile de Jean, on voit bien que les apôtres qui se mettent à le suivre, eh bien, partent à sa suite et partent à l'aventure. Voilà, on va s'arrêter. Il y a un petit temps de pause santé. Et puis, pour le temps de Lectio Divina, pour le temps